Que tu puisses enlever nos préjugés, notre incompréhension, nos idées préconçues, et puis nous donner ta pensée, nous amener proche de toi, nous éclaircir l'intelligence pour qu'on comprenne, qu'on te comprenne mieux, et qu'on rentre en relation avec toi mieux. Seigneur, je te prie pour de l'aide, pour présenter simplement, et que ta puissance puisse agir pour appliquer ta parole dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y avait une histoire. On va commencer avec ça. C'est un Festo qui Wengere, connaît pas. Apparemment, c'est un évêque anglican en Afrique, en Ouganda. Et lui, il avait un oncle qui était un chef d'un village. On le voit ici, là. Là, je vais peut-être baisser ça un petit peu. Et puis, le chef est installé pour juger. Il faisait comme une cour de justice, pour rendre justice. Et puis, avec toute ses courtisans, ou je ne sais pas comment on appelle ça, sa gang. Et puis là, il rentre un homme qui était riche, qui avait des grands troupeaux, et qui était connu pour invoquer les esprits des ancêtres, puis tout ça. Fait que l'homme, il rentre avec 8 vaches qu'il laisse à l'extérieur, pas loin. Fait que le chef, il voit arriver, puis il dit, il s'incline devant le chef, et puis il dit, « Je viens pour te voir pour un but précis. » Le chef, il dit, « C'est quoi l'affaire des vaches, là? » Bien, ils sont à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont à moi, les vaches. Mais ces vaches-là, il dit, ils sont à toi parce que quand je gardais ton troupeau, j'en avais pris 4. Puis là, les 4 sont devenus 8. Puis je t'y ramène. Fait que là, le chef, il demande, il dit... C'est qui t'a arrêté? Puis là, le gars, il répond, c'est Jésus qui m'a arrêté. Puis qui m'a demandé de te ramener tes vaches. Et puis, là, il n'y avait pas de rire. Puis le monde était sous choc alentour. Parce qu'il reconnaissait ce gars-là. Et puis, mon oncle, il pouvait voir que le gars, il était sérieux, mais il était en paix avec lui-même. Et puis, qu'il avait une certaine, c'est ça, une paix, sérénité. Et puis, le gars, il rajoute, il dit, écoute, tu peux me mettre en prison. Tu peux me battre si tu veux. Mais ça ne change rien. Je suis libéré. Jésus est venu sur mon chemin, je l'ai rencontré. Puis là, j'étais un homme libre. Fait que là, le chef, il réfléchit à son affaire. Il dit, écoute, si Dieu a fait tout ça pour toi, qui serais-je pour t'envoyer en prison? Il dit, va-t'en chez vous, qu'est-ce que je te dise? Fait que le gars, il est parti. Et puis, une couple de jours après, le gars, l'évêque, il va voir son mononcle. Avant qu'il devienne évêque, là, quand il était jeune, il va voir son mononcle. Puis il dit, mononcle, comme ça, j'ai appris que tu as reçu 8 vaches gratos, comme ça. Et il dit, oui, c'est vrai. Hey, tu dois être content. Hein? Il dit, pas en tout. Il dit, depuis que ce gars-là est venu me voir, je n'arrive pas à dormir. Puis si je voulais avoir la paix qu'il y a, faudrait que moi que je remette 100 vaches. Et là, il y avait un combat intérieur. Hein. On pouvait bien le voir dans le cœur de ce chef-là. Et puis, Festo, il dit que son oncle, le chef, est devenu chrétien par la suite. Il y a eu un combat intérieur. Et puis, à un moment donné, puis c'est ça, dans la repentance, que de plier notre volonté, de capituler Le premier avait dû vivre, celui qui adorait des esprits, qui invoquait les défunts, puis tout ça, qui était très riche, a dû avoir ce combat-là. Le chef l'avait. Puis on voit ce qui était beau là-dedans, c'est que le premier, hein, il admettait son mal. Il a corrigé son mal. Puis il était consentant, en paix et joyeux. Il était libéré. Et c'est ça que je trouve beau dans la repentance. La repentance selon Dieu. Je me suis interrogé un petit peu pour démêler tous ces concepts-là. C'est quoi la différence entre le regret, le remords, puis la repentance? Des fois, on regarde ça vite, ça a l'air tout, on met tout ça dans le même sac. Et puis, juste pour dire, j'ai essayé de démêler, j'ai trouvé des définitions, puis tout ça. Il faut faire attention parce que des fois, la personne peut commencer avec un simple regret, puis ça va mener à une vraie repentance. C'est mélangeant un petit peu. Mais c'est pas grave, ça vaut la peine de se pencher sur ça. Il faut faire attention aussi parce que des fois, il y en a qui semblent avoir une vraie repentance. Quelqu'un a fait une étude, il avait dit, il avait vu que 10 fois dans la Bible, il y a des gens qui ont dit à Dieu, j'ai péché. Ou qui ont dit, j'ai péché. Et sur ces 10 fois-là, il y en a juste 5 où c'était de la vraie repentance. Fait que c'est mélangé un peu, mais quand même, il faut qu'on... Je pense que c'est bon de réfléchir sur la question pour essayer de s'informer davantage. Donc, le regret, c'est de la peine qu'on ressent, qui est causée par une perte, l'absence de quelqu'un ou de quelque chose, le regret du passé. Je regrette que l'été soit fini. Vous autres aussi. Ça peut être un chagrin. Je ne sais pas c'est quoi la différence, mais chagrin, un repentir d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Le regret de ne pas avoir assez étudié. Par exemple, c'était la relâche la semaine passée. Mécontentement, contrariété, déplaisir causé par quelque chose que l'on déplore, par la non-réalisation d'un désir, d'un souhait. Je vous quitte avec beaucoup de regrets. Bon, c'est quand même pas une repentance énorme, là, t'sais. Mais on voit donc regret, ça semble être une catégorie. Ensuite, on a le remords, vive douleur morale, causée par la conscience d'avoir mal agi. Fait que c'est pas juste je regrette que des trucs soient finis, c'est « Oh, pourquoi j'ai fait ça? » Ou vive douleur. Et la repentance, bon, ça dit dans le dictionnaire, c'est un terme littéraire, en voulant dire ça s'utilise pas bien, malheureusement. Regret douloureux de ses péchés. Et quelqu'un avait essayé d'organiser tout ça. C'était Warren Wiersbe, c'est un commentateur évangélique bien connu. Il a essayé, OK? Est-ce que c'est vraiment ça? La Bible ne le dit pas, là, mais ça m'a aidé à mettre de l'ordre un petit peu. Le regret est le cheminement de pensée, donc c'est intellectuel, qui mène à dire « Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? » Je regrette d'avoir trop parlé. Là, il dit, le remords, ben là, t'ajoutes quelque chose, nous affecte un peu plus profondément et nous amène à ressentir un dégoût et de la douleur, implique à la fois l'intellect, c'est sûr, et le cœur. Là, tu t'as fait de quoi? Mais tu te sens vraiment mal parce que ce que tu as fait. Tu as des remords, tu es rongé par le remords. Et finalement, il dit, la vraie repentance introduit un troisième élément dans notre pensée, qui est notre volonté. Fait qu'on avait l'intellect, le cœur, et là, on ajoute la volonté. Pour véritablement se repentir, la personne doit avoir un changement de volonté. La tristesse, selon Dieu, est un déclencheur qui nous amène à la vraie repentance. Fait qu'il va avoir un changement de pensée intellectuelle, une douleur dans le cœur, qui va amener à un changement de comportement. Notre volonté, elle change aussi. C'est comme quelqu'un, « Hey, Jésus est vraiment qui? Dieu est vraiment majestueux? Ou j'ai vraiment mal agi face à lui? Je vais changer. » Tu te mets d'accord avec Dieu. Quelqu'un avait dit, puis je trouvais ça bon, « La repentance, c'est prendre l'opinion de Dieu ou le parti de Dieu contre nous-mêmes. » Des fois, on se défend, puis on On est la partie adverse. Dieu est notre partie adverse. Mais là, on débarque, puis on va du côté de Dieu, puis on s'accuse nous-mêmes. C'est vrai, il a raison. Et ça, ça nous amène à changer. La vraie repentance. J'aimerais ça qu'on regarde, parce que, est-ce qu'il y a de la tristesse dans tout ça? Oui. Mais c'est pas une tristesse stérile. J'aimerais ça qu'on regarde là, un texte bien connu dans 2 Corinthiens 7. Où est-ce que Paul, bon, je sais pas, l'histoire au juste, est-ce qu'il y avait un autre incident entre les lettres, les deux lettres qu'on a de Paul? Ou est-ce que ça visait celui qui commettait l'inceste, qui couchait avec sa mère, son père, ou, en tout cas, whatever? Là, les Corinthiens étaient intervenus. Et puis, ils s'étaient vraiment pris en main. Ils avaient pris ça au sérieux. Dans 2 Corinthiens 7, ça dit, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis. À cette heure, non pas de ce que vous ayez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. » Ce n'était pas une tristesse stérile, ça les avait portés à la repentance, à s'accorder avec Dieu, avec Paul aussi, et à dire « c'est vrai, il a raison », et puis à passer à d'autres choses, à changer son comportement. C'est-à-dire « car vous avez été attristés selon Dieu ». Il y a deux types de tristesse ici. « Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage ». En voulant dire « cette tristesse-là, ça ne vous a pas fait du tort ». En bout de ligne, ça a été pour votre bien. Aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Il fait un jeu de mots. Dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde, alors tristesse selon Dieu, tristesse du monde, produit la mort. C'est sûr qu'on en a beaucoup qui sont rongés par le regret, par le remords, pendant des années. Comme des crimes de guerre. Puis là, le gars qui pense à tout ce qu'il a fait, il n'est pas heureux. Il est rongé par le remords. D'avoir abusé quelqu'un, verbalement, financièrement, sexuellement. Puis là, tu te sens mal quand tu la revois, quand tu y repenses. Puis ça, ça peut être une tristesse stérile du monde qui produit la mort. Des dépressions, il y a des hôpitaux qui sont pleins de gens comme ça. Il y a des suicides qui sont motivés par ça, qui produisent la mort. Mais qui ne s'en repentent pas, qui ne produisent pas la repentance. Celle-là a produit une repentance à salut. Et donc, ça l'amène à une solution. C'est comme un médicament qui est efficace. Parce que Dieu illumine l'intelligence. Puis c'est dit, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. J'ai mal agi. Je vais changer. Aide-moi, soutiens-moi, transforme-moi. Autrement, c'est difficile de se repentir quand on n'est pas d'accord. Non, je ne pense pas que je devrais faire ça. Oui, mais quand notre logique change, quand Dieu illumine notre intelligence, là, tout d'un coup, la repentance... Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Je vais y ramener les vaches. Sais-tu? Puis même les 8. Pas juste les 4 que j'ai volées. Dans la Bible, et là, c'est intéressant... C'est dit que la repentance est un cadeau. Saviez-vous ça? La repentance est un cadeau. Puis c'est dit là, textuellement, pas juste un verset, trois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est Pierre qui dit ça, que Dieu a élevé Jésus pour donner la repentance, un beau cadeau. Dans Actes 11, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ça, c'est après que Pierre soit allé voir Corneille. Corneille s'est repenti. C'est un païen qui s'est repenti. Puis là, il était tout offusqué de tout ça. Puis là, ils se disent, quand ils ont entendu l'histoire, ils disent, « Ah, ouais! Wow! » Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a accordé un cadeau. Je vais te faire un beau cadeau. Je vais t'accorder un beau cadeau, toi. » La repentance. Aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ils savaient que c'était la repentance. C'est beau la repentance, c'est correct. Afin qu'ils aient la vie. Dans 2 Timothée 2:25, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dieu leur donnera ce beau cadeau-là. Puis je trouvais ça donc beau, touchant un peu, c'est que quand tu as des adversaires, tu n'es pas tenté là, de les redresser avec douceur. Hey, écoute, tu veux rien savoir, là, ben sac ton camp, là, puis, tu sais, achale-moi pas. Ça, c'est ce qu'on fait avec un adversaire. Non, non. Je le redresse avec douceur. Ça, c'est l'esprit, le cœur de Dieu qui veut donner la repentance, même à ses ennemis. Et puis, j'ai trouvé ça tellement beau de voir des exemples. C'était, comme mettons, dans Ézéchiel, de voir le cœur de Dieu. Puis, vous savez, même les anges, ils partagent ce cœur-là. Timothée, Paul, ils voulaient qu'il aille, vas-y avec doucement, pour que peut-être Dieu va leur donner la repentance. J'aimerais donc ça qu'ils se repentent. Ce serait tellement beau. Et puis, vous savez, quand un pécheur, Jésus disait, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de... C'est ça le cœur de Dieu, c'est ça le cœur des anges selon Dieu. Yes! C'était content qu'ils viennent à la repentance, qu'ils reçoivent ce beau cadeau-là. Bon, je vais aller un petit peu. Ici, dans Ézéchiel, il prophétise, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi moi, le Seigneur Dieu, je vous le déclare, à vous les Israélites, je jugerai chacun de vous selon sa conduite. Je vais être juste, ça c'est sûr. Changez donc votre vie. Détournez-vous de vos fautes et vous ne risquerez plus de tomber dans le mal. Abandonnez toutes vos actions mauvaises. Changez vos cœurs et vos esprits, ce qui correspond à la repentance. Pourquoi vouloir mourir, Israélite? Je voudrais pas, moi. Puis Dieu ajoute, moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Je ne veux la mort de personne. Changez votre vie et vivez. C'est beau, hein? Il y en a un dans la Bible que j'ai la difficulté à aimer. Puis quand tu lis ça, son histoire, au début de la Bible, c'est l'histoire de Caïn. Souvenez de lui? Méchant moineau. Il a été tué son frère. Son offrande avait été agréée par Dieu. Et puis il a été le tué. Mais voyez l'attitude de Dieu par la suite. Gardez son cœur. Et puis là, si Dieu est comme ça envers Caïn, pourquoi qu'il ne serait pas envers moi aussi, envers toi aussi, de désirer sa repentance? Le Seigneur dit, c'est dans la Genèse, au tout début, là, le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Hein, il va le trouver. Qu'est-ce qu'il y a, mon Caïn, qui va mal aujourd'hui? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attaquer. Mais toi, sois plus fort que lui, mon Caïn. Tu vois comment il est gentil? Comment il cherche sa repentance, son bien? C'est quoi le cœur de Dieu? Caïn dit à son frère Abel, sortons. Dehors dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel et le tue. Alors le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il ne l'a pas ignoré. Hey, ce gars-là, il ne veut rien savoir, là, Caïn. Garde-le agir, là. J'ai pourtant parlé. Mais là, c'est fini. Non, fini. Ah ouais, crève. Et là, il dit, où est ton frère Abel? Caïn dit au Seigneur, là, j'en saute un bout, là, parce que c'était trop long. T'sais, il avait répondu quoi à Dieu? Coudon, c'est-tu moi qui est responsable pour lui? Là, suis-je le gardien de mon frère? Belle réponse. Et puis là, Caïn dit au Seigneur, écoute ça quand il se plaint un peu, Caïn, ma punition est trop lourde à porter. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre, je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre, je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre, et celui qui me trouvera pourra me tuer. Puis là, le Seigneur répond à Caïn, mais non. Si quelqu'un te tue, il faudra tuer cette personne pour que tu sois vengé. Et le Seigneur met une marque sur Caïn, alors celui qui le rencontrera ne pourra pas le tuer. Hey, même envers Caïn, le Seigneur a de la bonté. Ça ne vous a pas surpris, ça? De voir le cœur de Dieu. Moi, ça m'a surpris. Et puis, c'était pas le seul. Aussi comme ça, que la compassion de Dieu dépasse la nôtre. J'ai été trop vite. Mais c'était pas le seul. Tu sais, il y avait Jonas. Que Dieu était le rechercher dans le ventre du poisson pour le renvoyer. Adam. Adam, où es-tu? C'est un rebelle, Adam. Et Ève, où es-tu, Adam? Puis qui faisait les premiers pas pour qu'il se repente. Est-ce qu'il y a un jugement? Oui. Mais il a quand même fait les premiers pas. De voir des rois aussi comme Manassé, quand il s'est repenti. Un crapuleux comme ça, là. Akab aussi. Des méchants rois, quand ils se repentaient, Dieu était content pour eux. Il y avait plus de joie dans le ciel aussi pour un seul juste. Donc, si on résume, jusqu'ici. Il y a une tristesse qui donne des résultats positifs et libérateurs, comme dans l'histoire du voleur de vaches. Il y a une tristesse qui, selon Dieu, qui produit la repentance, qui est un cadeau, un don de Dieu. Puis Dieu est patient, il appelle à la repentance, à la restauration du pécheur. Regardez ce beau verset-là. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, c'est-à-dire de revenir. Il tarde pas, c'est juste qu'il attend. Comme quelques-uns la croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que voulant que tous arrivent à la repentance. J'aimerais donc ça, pouvoir leur faire ce cadeau-là. Qu'ils soient libérés, guéris, joyeux, réconciliés. C'est ça, il y avait nos amis ici. Puis même dans l'exercice, hein, quand il y a une mise sous discipline à l'Église, c'est en vue de la repentance, pour le bien de la personne. Qu'elle puisse être réconciliée, restaurée. J'aimerais ça qu'on regarde rapidement quelques versets. C'est juste pour... Maintenant, il y en a plusieurs, OK? Soyez patients. Mais c'est juste de goûter un petit peu, de dire, tabarnouche, il y en a bien des versets sur la repentance. Et c'est comme de voir à quel point c'est central dans l'enseignement de la Bible. Jean-Baptiste, tu sais, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert, il disait, la première chose de son message, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, en commençant son message, Jésus commença à prêcher et dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus aussi disait, là, il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Quand Jésus disait « Quoi dire à ses disciples? » Mais vous autres aussi, prêchez la repentance. Et juste de remarquer ici que la repentance n'est pas toute seule. Elle est avec la repentance et le pardon des péchés. Puis c'est souvent comme ça en duo. La repentance, c'est admettre ton problème. Mais admettre ton problème, ça n'enlève pas le problème. Ça ne règle pas le problème. C'est juste que ça t'ouvre à la solution, le pardon des péchés. C'est pour ça que ça vient tout, souvent en deux. Puis si tu as juste la repentance pour la repentance, ça ne donne rien. Ça ne donne pas grand-chose. Parce que face à Dieu, on ne peut pas réparer notre mal. On doit juste recevoir le pardon. Pierre a continué. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il a commencé avec ça. Il a continué aussi, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et encore là, il y a le duo, repentance et le baptême pour le pardon des péchés, la repentance et la conversion pour le pardon des péchés. Paul aussi. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on a le problème, l'admission du problème et de recevoir la solution aussi. Encore les deux. Et de dire que, oui, il faut la prêcher, puis il faut l'enseigner. Parce que c'était quoi qui annonçait la repentance? Il faut la prêcher, puis il faut l'enseigner. Parce qu'on a des idées préconçues, négatives, une mauvaise attitude face à la repentance, et pourtant c'est nécessaire. C'était le cœur du message de Jean-Baptiste, de Jésus, de Pierre, de Paul, des disciples, et ça devrait être le nôtre aussi. Il donne un ordre de se repentir. Hein? Quand il dit « repentez-vous », c'est un ordre, c'est un impératif. Dieu donc, que dit Paul, ayant passé par-dessus les temps d'ignorance, de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Et bon, là, ça commence à en faire pas mal. Donc, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ici, il y avait trois éléments, puis il dit aussi, écoute, quand tu vas avoir la vraie repentance, là, je ne sais pas moi qu'est-ce qui est dans ton cœur, mais ça va paraître. On reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, si on récapitule encore, on devrait avoir une perception positive de la tristesse selon Dieu qui mène à une vraie repentance qui nous libère. La repentance est un terme important dans la Bible qui fait partie de l'annonce du message du salut en Jésus. C'était toujours la repentance et le pardon des péchés, ou pour le pardon des péchés. Le Nouveau Testament associe la repentance, admettre le problème du péché, à la foi en Jésus, recevoir la solution prévue par Dieu, et ça, ça la distingue de ce que c'est la repentance biblique. Jusqu'à date, ça va? OK. Là, il y a un texte ici que j'aimerais ça qu'on regarde. Parce qu'on se pose la question, est-ce que moi, j'ai à me repentir? Est-ce que toi, tu as à te repentir? Puis de regarder ce texte-là un petit peu. Puis on va essayer de le voir, là, qu'est-ce que ça veut dire. C'est dans Luc 13, où est-ce que des gens abordent Jésus avec une question. Ça les chicotait. Je ne sais pas pourquoi, là, ça ne le dit pas, là. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Fait que là, « Hey, as-tu su la nouvelle, Jésus? Qu'est-ce qui est arrivé? » C'était écœurant, hein? Pilate, là, notre gouverneur, il y avait des Galiléens, moi, des Galiléens, c'est pas correct, eux autres, là, mais des Galiléens, il se prit là, pendant qu'il faisait un sacrifice à Dieu, égorgé, puis il a mêlé leur sang à leur sacrifice. Pour moi, il ne devait pas être correct, hein, eux autres, Jésus. Méchant Galiléen, hein? Pour que Dieu permette ça. Il dit, pourquoi ça faire? C'est quand même spécial, hein, Dieu, hein Jésus? Il veut voir, qu'est-ce que t'en dis, Jésus? Et là, il continue, là, Jésus, il dit, il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Il va se dire un petit peu, là, les Galiléens ne sont pas corrects. Les Juifs n'aimaient pas les Galiléens, vraiment. Et puis, c'était moins peu que des vrais Juifs. Et puis, ils étaient plus éloignés. Mais... pensez-vous qu'eux autres étaient plus pires là, que les autres Galiléens? Non, je vous le dis. Puis regardez ça. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voyons donc. J'ai fait de mal. J'imagine, hein, la surprise. Voyons donc. Me repentir. Également. Hey, c'est pas ce que tu dis? Veux-tu dire que moi aussi? Ou bien, puis là, Jésus continue. Un autre potin qui circulait au sujet de ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée. Je ne sais pas si à Jérusalem, il y avait une tour de Pise, genre, puis il y avait 18 personnes qui étaient montées dedans ou qui étaient à côté. Et puis là, la tour, elle s'est effondrée. C'était dans les nouvelles, à la radio. Mais sur la tour, et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent, ces 18 personnes-là, plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem. Oh, là, on parle de Jérusalem. Jérusalem, c'est quand même une bonne ville. Le temple est à Jérusalem. Non, je vous le dis, elle n'était pas plus coupable, les 18 personnes, que tous les autres habitants de Jérusalem. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça dit dans une autre version, j'oublie. Mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous pareillement. Là, on va dire, c'était quasiment insultant de dire que je suis coupable comme ça, que je mérite ça. Avez-vous ce sentiment-là un petit peu? On ne comprend pas. Puis quand on ne comprend pas, voyons, pourquoi tu me dis ça de même? C'est blessant. Mais savez-vous que ces incidents-là de mourir sous une tour, en tout cas, pour eux autres, je ne sais pas, mais littéralement, quand Jérusalem a été conquise, apparemment, c'était proche d'une fête religieuse, donc ils apportaient des sacrifices. Et puis les soldats, quand Jérusalem a été conquise, ont égorgé les gens, tué les gens de Jérusalem, les habitants de Jérusalem, pendant qu'ils faisaient leurs sacrifices. Que les soldats ont détruit les murailles de Jérusalem qui sont tombées sur eux, qui sont décédés. Littéralement, c'est arrivé. Mais pourquoi c'est arrivé? Jésus l'explique aussi. Pourquoi Jérusalem a été détruite? Tu sais, Jérusalem, Jérusalem, combien souvent j'ai tenté de réunir tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, elle va être détruite par après. Parce qu'il avait rejeté le Sauveur Jésus. Tous ces gens-là, là, ceux qui avaient apporté le potin, mettaient pas leur confiance en Jésus. S'étaient pas humiliés devant Dieu face à leur péché. N'avaient pas saisi l'immensité de la sainteté de Dieu qui avait offensé pour recevoir la seule solution qui était en Jésus-Christ. S'étaient pas repentis. Fait que, dans cette situation-là, on semble trouver au départ difficile à comprendre qu'il y a eu à se repentir. Puis quand on réfléchit, on se dit, ouais, OK, là, je comprends. Mais là, nous autres, d'abord, je reviens à ma question. Est-ce que moi aussi, j'ai à me repentir? De quoi j'aurais à me repentir? Parce que c'est une exigence non négociable si vous ne vous repentez. À moins que vous vous repentiez, vous êtes dans le trouble. Et là, c'est d'essayer de réfléchir, OK, sur la gravité du péché. Ça, c'est une petite photo, là, c'est l'Association des fermiers chrétiens qu'on a un petit kiosque dans des événements où est-ce qu'on présente avec 5 couleurs l'histoire du salut en Jésus. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on voit là, tu sais, les gens, ça discute, puis ici c'est Marcelin qui parle avec du monde. Et puis, dans la présentation, on leur dit, la couleur sombre, ça représente le mal qu'on a tous fait. Puis moi, quand je la fais, la présentation, je leur dis, j'ai déjà menti, volé, triché, et le mal que j'ai fait m'empêche d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que sinon, le ciel serait plus parfait. J'annonce. Puis, la plupart des gens, en leur présentant ça, ils disent, ben oui, on a tous fait ça. Il n'y en a pas personne là, qui tombe de leur chaise. Ou des fois, ils font la joke. Ils me regardent en souriant, puis ils disent, « Moi, j'ai jamais fait ça. » Puis avec un beau sourire, en voulant dire, « Ben oui. » Tout le monde a fait ça. C'est pas grave. Tout le monde a fait ça. Voyons. Et puis, comme une innocence dans leur attitude. Fait que, oui, c'est ça. Les gens réalisent qu'ils ne sont pas parfaits, mais ils ne ressentent pas le besoin de repentance. En fond, la difficulté, c'est en leur parlant, qui là, qui, c'est ça, très peu reconnaissent être suffisamment pécheurs pour mériter l'enfer. Très peu se reconnaissent coupables d'insoumission envers Dieu et coupables d'avoir refusé Jésus comme son Seigneur. Ça se peut-tu? C'est difficile. Tu sais, on admet qu'on est des pécheurs, je le reconnais. Mais pas si pécheurs que ça. J'ai des problèmes, mais pas tant que ça. Puis là, si tu pousses un petit peu, tu deviens désagréable, insultant. Ben là, tu sais, voyons, ils ne comprennent pas. On ne comprend pas naturellement. Quand j'ai menti, là, puis tout ça, je n'avais pas des intentions criminelles. Puis, et c'est là qu'on a besoin d'être éduqué. Ou est-ce que quand Dieu donne la repentance, c'est qu'il allume la lumière aussi? Bien, je pense qu'il faut se le dire et se l'enseigner, c'est quoi la repentance? Mais sur la gravité du péché, c'est quoi l'immensité de la sainteté de Dieu qui voit mes pensées, mes intentions? Quand il dit celui qui dit raca à son frère, imbécile, mérite la géhenne. Ça, là, ça m'offense. Tu ne peux pas dire ça dans mon univers. Ça ne se fait pas. Moi, je ne tolère pas ça chez nous. C'est ça que Dieu dit. Dans mon univers, là, ça ne se fait pas. Puis si tu veux faire comme ça, ben, tu vas être séparé de moi. Et c'est ça qu'on doit apprendre, s'éduquer. Puis, il y a quelques photos là, qui viennent. J'ai essayé de saisir des situations où est-ce que là, bon, c'est pas contre la loi de Dieu, mais que des personnes réalisent qu'ils ont fait une méchante gaffe, que ce n'était pas des intentions criminelles, mais que ce n'était pas correct, puis que le monde, la Cour de justice, les juge criminellement responsables. Bien, c'était des bonnes personnes. Vous vous souvenez de l'histoire de cette dame-là? Un procès en 2010, c'est une bonne personne, elle a arrêté sur l'autoroute pour sauver, il y avait des canards qui voulaient traverser l'autoroute. Fait que là, elle arrête son char, hey, elle va les aider à traverser. Il faut être une bonne personne pour faire ça. Elle n'a pas froid aux yeux, elle est courageuse, méchante bonne personne, hein? Puis là, il y avait une moto qui suivait, et puis le gars, le papa était là avec sa fille en arrière, puis ça a été affreux. Ils sont rentrés dedans, la fille, pendant les deux morts. Et puis, la cour, elle a été déclarée coupable d'avoir causé deux morts par négligence criminelle. Savez-vous c'est quoi la pénalité pour la négligence criminelle causant la mort? Au maximum, à perpétuité. Pas aller plus que ça. En voulant dire, c'est super grave. Et conduite dangereuse. J'ai jamais voulu faire ça, là. C'est comme moi, donc, face à Dieu. J'ai jamais voulu t'offenser. Puis elle, c'est ça son argument. Son avocat, il dit, elle n'a jamais eu, monsieur le juge, des intentions criminelles. Puis le jury a dit, peut-être. Mais c'est quand même de la négligence criminelle. Tu fais pas ça. OK. Tu vois, là, ça vient d'allumer. Puis peut-être par après, quand il repense à son affaire, « Hey, méchante gaffe que j'ai faite là. Aïe, aïe. » Puis là, ça travaille. Le cerveau se met à jour. Tu sais, il se met il réfléchit, puis « Ouais, c'est vrai. Méchante gaffe que j'ai faite là. » Puis là, la réalité rentre. Est-ce que, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est dans son cheminement, puis je ne veux pas la pointer. Je suis capable de faire des gaffes, moi aussi. Mais c'est mon point ici, c'est juste de voir qu'il y a des choses qui sont faites des fois, pas si méchamment que ça, mais on ne sait pas c'est quoi la portée du mal qu'on peut faire. Et tant qu'on ne réalise pas la portée du mal qu'on peut faire, on ne peut pas apprécier la portée de l'aide que Dieu veut nous apporter en Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Ici, là, « Friends don't let friends text and drive ». Elle vient d'apprendre ce qui est arrivé. La conversation ne pouvait pas attendre. qu'est-ce qu'elle a fait là? Et puis, si tu vas sur Internet, tu as plein de photos. Ça, c'est un jeune, il a 18 ans. Il textait. Puis là, on voit l'avocate là, qui présente là, l'accident qui est arrivé. C'est pas un méchant gars, là. C'est pas un criminel, là, lui, là. Puis, il y en a plein, là, tu sais, comme elle, la jeune, là, coupable d'avoir causé 2 morts par négligence criminelle. Là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis même en éduquant les gens, en les portant à la repentance, il y en a qui textent encore. Oh, ça vient de vibrer, tu sais, puis... attends, non. Ouais, je ferme mon téléphone. J'ai un message, excusez. C'est un message texte, OK. Non. Faut pas joker là-dedans. Donc, c'est cette pensée-là, donc. Juste de voir en quoi est-ce que je dois me repentir. Et qu'il y a des choses, des événements comme ça auxquels on s'identifie assez facilement. En tout cas, moi, je m'identifie assez facilement. Je me dis, hey, c'est grave. Puis là, plus qu'on en parle, mais les gens continuent pareil. Et puis, il y a cette circonstance-là, hein, vous reconnaissez. Le gars là, qui a fait ça, là, les conducteurs là, du mécanicien, je ne sais pas trop quoi, pour qu'il n'ait pas mis le break comme il faut. Jamais. C'est-tu un méchant, lui? Pourtant, il y a 47 d'accusations de négligence criminelle. Pas un là, qui amène à perpétuité. Il y en a 47. Ayant causé la mort. Et puis là, tu réalises, puis des fois, c'est ça. On doit être mis à la raison, rappeler à la réalité, de dire, suis-tu dans le trouble, moi, là? Face à Dieu? C'est ça que Dieu me dit, là. Toi, t'es-tu dans le trouble? Face à Dieu? T'es-tu repenti? C'est ça, la loi contre texter, on pourrait dire, la loi de Dieu a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Tu vois, tu n'es pas capable. Prends-la au sérieux, la loi. C'est comme un détecteur de fumée. Hein? Le détecteur de fumée, c'est pour nous enseigner, pour nous dire quelque chose. Puis la loi nous indiquait qu'on avait besoin d'un sauveur. Mais si je décroche la batterie, en disant, ah, c'est pas grave, mentir un peu comme ça, c'était correct. Non, ça va. Un petit vol. Puis vol, ça, c'est pas grave. Les gros vols, c'est des vols envers moi, ça, c'est grave. Un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, c'est ça, les 10 commandements, qui dit, tu porteras pas de faux témoignages, tu convoiteras pas, tu ne commettras point d'adultère. Et là, Jésus rajoute, le sens de cette loi-là, l'esprit de la loi, c'est que quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commandement? T'aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Honore ton père et ta mère, c'est vrai. Pas d'autre Dieu devant ma face. Oh ben là, Dieu est capable de se débrouiller tout seul. Hein? Ça l'a offensé? Bon, il est assez grand, là, puis il va s'en remettre, faites-vous en pot. Tu sais, non. Ramenons les pendules à l'heure. Tu l'as offensé. Tu es dans le trouble. Tu as besoin de te repentir. Il y avait une citation ici, c'était un missionnaire en Afrique, je ne la connais pas vraiment, mais j'avais trouvé ça bon. La repentance n'est pas seulement un sentiment de regret ou de contrition pour une faute. La repentance est la contrition ou la tristesse pour ce que nous sommes fondamentalement en nous-mêmes, parce que nous sommes tordus dans l'essence même de notre nature rebelle. Car nous suivons nos propres directives et non celles de Dieu. Donc, se repentir, pas pour un péché spécifique, mais pour le principe qui est en nous, par lequel on agit. Je fais à ma tête. Bon. Et ça, ça passe pas. C'est lourd de conséquences. Il y avait une autre citation qui venait de C.S. Lewis, je m'excuse, elle est un peu longue, là, mais en tout cas, peut-être ça peut nous aider. Là. Ça redit en gros la même chose. L'homme déchu n'est pas simplement une créature imparfaite qui a besoin d'amélioration. Il est un rebelle qui doit déposer les armes. Déposer les armes, capituler, exprimer notre regret, réaliser que tu as été sur une mauvaise voie et être prêt à recommencer ta vie à zéro. C'est le seul, excusez l'erreur, moyen de sortir de notre trou. Ce processus de capitulation, ce mouvement de recul à plein régime, est ce que les chrétiens appellent la repentance. Donc, c'est une prise de conscience que tout en moi a besoin de recommencer à zéro. Là, Seigneur, c'est toi qui ronnes. Là, je fais juste des gaffes. C'est pas juste une gaffe que j'ai faite, c'est je suis une gaffe. Fait que là, rentre en moi, change de quoi, transforme-moi, et c'est ça, une nouvelle naissance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La régénération, un gros changement. Et c'est ça la repentance chrétienne. Moody, qui était un évangéliste le siècle passé, était dans son église, puis il rencontrait quelqu'un, puis il avait demandé, « Toi, tu t'es-tu repenti? » Le gars, moi, je ne me suis jamais abordé de ça. Ben, il dit, t'as un problème. Puis tu sais, il y en a. Puis je réfléchissais à ça. Je pense que c'est facile de venir dans un lieu comme ça. Tu sais, c'est le fun. T'sais, les gens sont quand même corrects. La plupart. Et puis, tu sais, la louange, c'est beau. Moi, j'aime ça la musique. La musique, ça swing. Puis, hey, vraiment. J'aime ça la musique. Puis, les belles valeurs, je trouve, les chrétiens. Hein? C'est le fun. Moi, je suis capable. Non, je me sens à l'aise avec ce monde-là. Puis, l'atmosphère est belle, le monde est le fun. Puis, non, j'aime ça. Puis, il n'y a pas de repentance. C'est comme si on ajoute Jésus dans notre vie, mais on ne soustrait pas le péché avec lequel Jésus ne peut pas cohabiter. On fait juste une couche de vernis ou de peinture par-dessus. Mais à l'intérieur, ça n'a pas changé. C'est ça qu'on termine. Et c'est une invitation à la repentance, à accepter ce principe-là. Quand j'étais, c'était cette semaine... Ouais. Je vais continuer sur la repentance au mois de décembre, je pense. Fait que je vais dire mon affaire après. Je vois que l'heure passe. C'est ça. Donc, reconnaître qu'on a péché. Admettre qu'on est assez pécheur pour mériter l'enfer. Admettre qu'on est assez pécheur pour pas pouvoir s'améliorer. C'est une grosse affaire, ça. C'est tellement dans ma nature que je pourrais pas changer. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Et d'arriver à cette compréhension-là, ça, c'est un cadeau. C'est merveilleux. Si Dieu peut nous donner ça, là, écoute, j'essaie même plus. Si c'est pas Dieu qui le fait en moi, qui me transforme, j'essaie même plus. Je sais comment je suis pas capable. Je suis découragé de moi, mais pas de Dieu. Et ensuite, recevoir le pardon de Dieu payé sur la croix par Jésus. Recevoir Jésus comme notre Seigneur, soumettre notre volonté. Comme le gars avec les vaches, hein, il avait capitulé. Et moi, ça compris, peut-être qu'il y en a qui se disent, « Moi, je me suis déjà repenti, je sais qu'est-ce que c'est. Je suis venu à Jésus, j'étais brisé face à moi-même, puis j'ai accepté son aide. Je sais ce que c'est, puis ça a changé quelque chose. » Je demanderais aussi de prier, mais prier pour ceux qui ne l'ont pas accepté, qui sont ici ce matin. Parce qu'on a besoin d'un miracle, une intervention divine pour allumer l'intelligence, éclaircir l'intelligence. C'est pas des petites photos de tweets dans l'auto, tu sais, qui changent la personne. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Priez pour ces gens-là. Priez avec moi. On va prier. Et puis si tu t'es pas repenti, je t'invite à faire cette prière-là maintenant. Seigneur Dieu, j'avais jamais pensé à ça, que j'étais pécheur devant toi. Et là, je commence à voir que je suis peut-être vraiment mal parti, vraiment mal fait, que le problème dans le monde, ben, j'en fais partie, c'est moi. Et je veux venir à toi. Seigneur, tu peux lui dire ça. Éclaire mon intelligence. Fais-moi comprendre ta pensée sur moi. Comment toi, tu ne peux pas tolérer le mal. Tu hais le péché parfaitement, mais que tu m'aimes pareil. Je viens à toi, Seigneur. Viens m'aider. Je te donne ma vie et je veux recevoir ton pardon. J'ai tellement besoin d'aide. Je veux recevoir ton pardon. Dis-lui ça dans ton cœur. Et remercie-le. Parce qu'il t'aime. S'il a pu aimer Caïn, il peut t'aimer aussi. Et les anges veulent se réjouir de te voir te repentir, venir à lui. Seigneur, donne la force ce matin pour faire ce pas-là, de se mettre en règle avec toi, de recevoir, de trouver cette joie, la sérénité, la liberté. Au nom de Jésus, amen.